Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h, c'est avec Céline Landreau. Céline, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. 6 blessés dont un grave après une attaque à l'arme blanche ce matin, gare du Nord à Paris. L'assaillant a été neutralisé dans la foulée par les forces de l'ordre. Ses motivations sont encore inconnues, on y revient dès le début de ce journal. À la une également aujourd'hui, les retraites, évidemment, le jour d'après, la réforme est indispensable et vitale. C'est ce que vient de dire Emmanuel Macron à ses ministres. Face à l'exécutif, la contestation s'organise. Quelle ampleur prendra-t-elle? Et sur le fond, ce texte, que prévoit-il exactement? On va essayer de vous éclairer une fois de plus sur ce qui vous attend à l'avenir. Nerissa Emani, notre spécialiste retraite, sera avec nous à 12h40. 1900 salariés bientôt sur le carreau. La justice a mis sa décision en délibéré sur l'avenir de Place du Marché, l'ancien Tout-Pargel. Mais les premiers concernés, eux, n'ont plus d'espoir, vous l'entendrez. Et puis Noël Le Graët face au comité exécutif de la Fédération Française de Football. Depuis une heure déjà, ses propos sur Zidane, ses accusations de harcèlement sexuel, sa manière de prolonger aussi Didier Deschamps à la tête des Bleus. Fragiliser le patron du foot français, peut-il encore rester? On fera le point.
RTL toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, on part à Saint-Chamas dans les Bouches-du-Rhône, où une décharge illégale pollue au sens strict comme au figuré la vie des habitants. À 12h20, RTL Midi, votre vie, plongée dans votre quotidien, et si c'est une maladie, Pascal, je crains que nous en souffrions tous les deux. On va parler du phubbing, cette habitude de ne pas quitter son téléphone des yeux, de le prendre dès qu'une notification apparaît, et ça, même quand on est avec des amis, même quand on est à table, ça parlera certainement à certains. Enfin, juste avant 13h, LVT Midi, nous sommes mercredi, nous parlerons donc cinéma avec Stéphane Boutsock. La question du jour sur notre site RTL.fr à propos de la réforme des retraites. Êtes-vous prêt, vous, à travailler jusqu'à 64 ans?
Et on attend toutes vos réactions, vos questions, pourquoi pas, sur cette réforme des retraites à partir de 13h. Dans les auditeurs ont la parole.
La météo, c'est avec vous aujourd'hui, Peggy Broche. Bonjour.
Bonjour.
C'est un peu plus calme?
On a un peu plus d'éclaircies sur l'ouest, mais il n'empêche qu'il y a quand même une perturbation.
Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
6 blessés dont un grave après une attaque à l'arme blanche ce matin, gare du Nord à Paris. L'assaillant a été neutralisé dans la foulée par les forces de l'ordre. Il est actuellement hospitalisé, son pronostic vital engagé. Bonjour Gauthier de Lombugard.
Bonjour.
Vous êtes dans la gare parisienne pour RTL. Les faits se sont déroulés, on le disait ce matin, un peu avant 7h.
Absolument, il est 6h42 précisément ce matin lorsque cet homme fait une première victime à l'entrée de la gare du Nord. Selon nos informations, l'assaillant frappe un voyageur d'une quinzaine de coups de poinçon, une lame fabriquée de manière artisanale. Ce voyageur est gravement blessé, puis l'assaillant poursuit son violent périple à l'intérieur de la gare. Des usagers tentent de l'arrêter, ils sont blessés à leur tour. 6 blessés au total, dont un agent de la police aux frontières. Quelques secondes plus tard, des policiers interviennent et tirent à plusieurs reprises. L'assaillant s'effondre. Thierry, un Parisien, raconte la scène qui s'est déroulée sous ses yeux.
Le gars, il s'est embrouillé avec quelqu'un à l'extérieur, il a insulté en arabe, puis il est rentré dans la gare. Il a bondi au couteau, les policiers ont couru derrière, et après j'ai fait le coup de feu comme tout le monde.
Vous avez couru?
Ah ben oui, je ne vais pas rester là. Puis j'ai vu qu'ils l'ont ramené sur le brancard.
L'assaillant a été transféré à l'hôpital, il est entre la vie et la mort. Cet homme n'avait pas de papier sur lui, son identité reste donc pour le moment inconnu, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, venu saluer l'action des forces de l'ordre ce matin ici, gare du Nord. L'enquête confiée à la police judiciaire est en cours pour déterminer notamment les motivations de l'assaillant. Le parquet national antiterroriste ne s'est pour le moment pas saisi de l'affaire.
Gauthier Delon, Bugard, gare du Nord, donc à Paris pour RTL.
RTL Midi.
Elle était attendue, la réforme des retraites a été présentée hier, vous le savez, aux Français.
Première étape d'un nouveau marathon, puisque le texte doit maintenant être présenté en Conseil des ministres avant d'être examiné et voté par les parlementaires. Deux piliers, on l'a beaucoup dit, dans ce texte, l'âge de départ légal repoussé à 64 ans et la durée de cotisation portée à 43 annuités. Alors là-dessus, il y a peu de chances que le gouvernement bouge, les Français savent donc ce qui les attend. Et ceux que vous avez croisés ce matin, Célestin Bougère, s'ils ne sont pas forcément enthousiastes, sont en tout cas plutôt résigné.
Travailler plus, certains étaient déjà prêts à le faire. C'est le cas d'Eric, un artisan joaillier.
De toute façon, en tant qu'artisan, on est obligé, on ne peut pas s'arrêter. Donc on travaillera jusqu'à plus soif, 70, 75. Si ma santé me le permet, je continuerai à travailler. Déjà, il y a la passion du métier et puis le besoin.
Au contraire, Maxime, un cuisinier qui fait les marchés depuis plusieurs années, se voit mal travailler davantage. Il est plutôt en colère à l'annonce de cette réforme des retraites.
Ça me dérange. Je trouve qu'il y a des métiers qui sont un peu plus durs que les autres et d'aller jusqu'à 64, 65 ans, c'est un peu plus compliqué. Je me vois pas en cuisine jusqu'à 65 ans. On n'a pas le choix, donc on va faire.
Juste à côté, un livreur à moto, Kamel, ne veut pas travailler plus sans une petite contrepartie en retour.
Travailler plus, mais il faut qu'il y ait la carotte au bout, quoi. Il faut qu'il y ait un intérêt à travailler plus.
Et vous voyez, travailler jusqu'à 64, voire plus.
Bah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Je pense pas que je vais tenir jusqu'à 64 ans.
La plupart des personnes rencontrées s'opposent à ce recul de l'âge de départ à la retraite, mais on sent une certaine résignation. Beaucoup s'attendaient à de telles annonces.
Célestin Bougère pour RTL.
Une bonne nouvelle quand même dans cette réforme, c'est la revalorisation de la pension minimum.
Portée, oui, à 1200 euros brut par mois dès cette année pour les futurs retraités à la carrière complète. On parle donc des gens qui ont tout leur trimestre, mais aussi pour les retraités actuels. Près de 2 millions de petites retraites sont concernées, selon Elisabeth Borne. Le gouvernement qui précise par ailleurs ce matin qu'il ne se projette pas dans l'idée d'une mobilisation massive, c'est ce qu'indique le porte-parole Olivier Véran. Et ça, alors que toute la gauche, mais aussi le Rassemblement national, ont déjà manifesté leur opposition claire au texte. La politique, c'est aussi le retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale. Comme il l'avait annoncé, le député insoumis, condamné, vous le savez, pour violence conjugale, a repris ses fonctions. Il participait ce matin à la commission des affaires étrangères dont il est membre.
C'était l'un des fleurons du surgelé. Toupargel, devenu place du marché, sera fixé sur son avenir vendredi au plus tard.
Le tribunal de commerce de Lyon a mis en délibéré sa décision sur la société qui livre à domicile des produits alimentaires. Mais Frédéric Perruche, les 1900 salariés, en comptant les filiales, ne se bercent pas d'illusions et ont le sentiment ce midi que leur sort est déjà scellé.
À la sortie du tribunal, l'ambiance est tendue quand les délégués du personnel annoncent la mauvaise nouvelle aux 130 salariés venus manifester. 48 heures de réflexion avant liquidation.
On va sur la liquidation, hein. Il y a 1600 personnes ou 1900 personnes impactées, donc il veut prendre le temps.
Les manifestants présents sont écœurés, comme Zora, 53 ans, de l'agence Place du Marché de Villeurbanne.
Moi, je suis très déçue. Je me sens bafouée et de nous avoir éjectés comme ça du jour au lendemain, moi ça me fait vraiment beaucoup de peine parce que j'ai tout donné et du coup ils m'ont tout repris, voilà. Sans CDI, oui, j'ai peur pour moi et ma famille. Je me sens un peu maltraitée.
Seul espoir pour les 1900 salariés du groupe, négocier au moins mal les conditions de licenciement.
Frédéric Perruche à Lyon pour RTL.
Noël Le Graët joue probablement son avenir à la tête du foot français ce matin.
Le président de la Fédération française de football est en effet face au comité exécutif de la FFF, réuni en urgence pour l'entendre sur les dossiers brûlants du moment. Ses propos sur Zidane, bien sûr, dont on a beaucoup parlé, mais aussi les accusations de management discutable, de harcèlement sexuel dont il fait l'objet. Alors, Noël Le Graët, 81 ans, sera-t-il poussé vers la sortie? On y revient plus longuement dans quelques minutes. Le foot, c'est aussi la 17e journée de Ligue 1. Ce soir, à 5 match dès 19h, la suite ce sera à 21h, et puis à 21h toujours le début du mondial de handball, cette fois en Pologne et en Suède. Les Bleus joueront le match d'ouverture face aux Polonais, ce sera donc à suivre à 21h. La météo, on vous retrouve comme promis Peggy Broche, un peu plus de lumière cet après-midi.
Oui, en tout cas entre la façade atlantique, le centre, l'Île-de-France et les frontières du Nord, c'est vrai que le temps est plus sec et plus lumineux. En revanche, sur les bords de Manche, ça sera agité, on a du vent, on a des averses, et attention parce que ce soir et cette nuit, on risque d'avoir des phénomènes tourbillonnaires sur les côtes du Pas-de-Calais et du Nord, donc prudence. Mais on a toujours cette perturbation entre le sud-ouest et les frontières de l'est, qui amène de la neige sur les Pyrénées et les Alpes dès 1500 mètres. Et entre le sud-est et la Corse, là, on a un ciel plus ou moins voilé. Tout ça sous des températures encore très douces, de 11 à 13 au nord et jusqu'à 17 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
C'est notre Tour de France quotidien. Chaque jour, l'info plus près de vous, Céline.
Et aujourd'hui, direction Saint-Chamas, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour, Étienne Baudu.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Il y a un peu plus d'un an, le 26 décembre 2021, un incendie ravageait le site de traitement des déchets. 30 000 mètres cubes, 30 fois plus que ce qui était autorisé. Les pompiers ont mis un mois et demi à l'éteindre. Et depuis, Étienne, rien n'a bougé ou presque.
Effectivement, sur les 30 000 mètres cubes de déchets qui s'amoncelaient avant l'incendie, il en reste encore plus de la moitié de gigantesques monticules de déchets, principalement issus de la déconstruction dans le bâtiment. À l'époque, un vaste nuage de fumée avait recouvert le village et ses alentours. Et aujourd'hui encore, un arrêté municipal interdit de consommer l'eau issue des forages privés. Sébastien habite en limite du terrain dévasté. Il nous fait part de son inquiétude.
On aimerait surtout que la situation se débloque et que tout soit évacué et que le terrain soit nettoyé en profondeur parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel point il a pu être souillé par les détritus. Lorsqu'il y a du vent ici, le Mistral souffle fort, il y a encore des particules qui s'envolent. On a aussi tout le phénomène de pluviométrie qui a été assez intense quand même. Donc on craint les infiltrations et que la pollution persiste et perdure.
Alors Étienne, la question se pose aujourd'hui de l'évacuation de ces déchets. Qui va s'en occuper ?
Eh bien, c'est la question qui fâche. D'abord, le coût de cette évacuation, 3 millions d'euros, impensable pour la petite commune de 8 000 habitants et inacceptable pour son maire, Didier Kelfa. Mais il n'a aucun responsable à qui faire payer la facture. La société s'est volatilisée. Une enquête est en cours pour gestion irrégulière des déchets et escroquerie en bande organisée. 5 personnes ont déjà été mises en examen en mai dernier et écrouées. Et pour Didier Kelfa, il faut évidemment trouver des solutions.
On me parle de plusieurs années d'instruction, 4 à 5 ans, voire un peu plus. Donc il est important qu'on puisse agir, nous, malgré tout, avec les services de l'État, pour voir comment à chaque étape judiciaire, chaque fois qu'on pourra peut-être trouver un peu d'argent ou des entreprises qui ont déposé des déchets ici, c'est savoir comment on va les faire payer. Ensuite, en cas de vraiment défaillance de ces sociétés, c'est de voir l'État, la métropole ou la commune, qu'on essaye de trouver des solutions.
Et une réunion est prévue à la fin du mois avec la préfecture. Didier Kelfa ne s'en cache pas, il en attend beaucoup. Le maire qui souhaite également que la réglementation change, elle n'est absolument pas contraignante. Vous pouvez par exemple ouvrir un tel centre de traitement de déchets sur simple déclaration.
Il faut dire stop, il faut des systèmes d'autorisation, il faut qu'une personne qui veut créer ce genre d'établissement puisse être contrôlée, qu'on puisse venir voir le site, voir ne serait-ce que des conditions, j'allais dire, de sécurité de base. Est-ce qu'il existe réellement un réseau incendie ? Ici, il n'y avait pas de réseau incendie. Et il faut aussi s'assurer qu'il y ait une réelle traçabilité d'où viennent les déchets. Moi, aujourd'hui, on me dit « Ah ben oui, mais les registres ont brûlé ». Non, ça veut dire qu'ils ont tout fait pour masquer qui venait déposer ici.
Et en attendant, ces monticules de déchets risquent donc d'être là pour un moment encore.
Merci beaucoup Étienne Baudu dans les Bouches-du-Rhône donc pour RTL.
Une pause et on parle de Noël Le Graët. Jean-Michel Rascol est déjà dans ce studio et c'est le président de la fédération à cette heure-là à démissionner. On en parle dans une seconde.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
Céline Landreau, Pascal Pro,
RTL Midi.
Ça disjoncte un peu à l'oral. Aujourd'hui, je fais un constat de faillite sur cette dimension de représentation. Avec une parole en roue libre, avec une parole qui flanche et qui flanche parfois gravement et de manière répétée. Et tout ceci est inacceptable.
Le tacle d'Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, visant Noël Le Graët. Noël Le Graët, actuellement face au comité exécutif de la Fédération française de football, celui qui est encore à l'heure actuelle. Mais pour combien de temps d'ailleurs le patron du foot français va devoir s'expliquer sur plusieurs dossiers, les propos maladroits concernant Zidane ce week-end, les accusations de harcèlement sexuel aussi qu'il vise, et puis les questions autour du renouvellement de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Bonjour Baptiste Durieux.
Bonjour Céline.
Et bonjour Jean-Michel Rascol.
Bonjour.
Baptiste, vous êtes devant le siège de la Fédération française de football à Paris où se réunit donc en urgence ce COMEX. D'abord, qui est là ? Qui le compose ce COMEX ?
Alors, on a pu voir Vincent Labrune, notamment le président de la Ligue de football professionnel, qui a déclaré que le statu quo n'était pas une option. Ça le mérite d'être clair. Quelques minutes après lui, c'est Jean-Michel Aulas, le très médiatique président de l'Olympique Lyonnais, qui a été plus évasif en disant « on va faire une réunion et on verra ». Il y a également le premier à être arrivé, Philippe Lafrique, membre du COMEX également, qui gère notamment les relations avec les clubs de district. Il y avait Jamel Sandjak aussi présent, président de la Ligue de Paris-Île-de-France, mais aussi les autres membres du COMEX qui sont passés par une autre entrée, sans oublier ceux qui seront en visio à distance. À noter également la présence d'un collectif ce matin qui s'appelle les Dégommeuses, qui luttent contre le sexisme par le biais du sport. 6 femmes qui étaient devant le siège de la Fédération française de football, qui ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire harcèlement sexuel, Noël Le Graët démission, plus personne ne croit le Père Noël, ou encore Le Graët, le Père Noël est une ordure. Ça vous donne le ton, un climat qui est vraiment tendu, presque électrique devant le siège de la Fédé actuellement.
Est-ce que Comex, il peut démettre Noël Le Graët de ses fonctions, Jean-Michel ?
Écoutez, l'enjeu est double, Pascal, pour les dirigeants de cette assemblée qui, rappelons-le, sont à l'origine tous des soutiens plus ou moins affichés de Noël Le Graët. L'idée de faire comprendre au président qu'il ne peut plus tenir la barre avec autant de vent contraire. Il y a le mépris affiché envers Zidane dimanche dernier, le renouvellement du contrat de Didier Deschamps jusqu'en 2026 sans consultation du COMEX. Il y a bien sûr l'audit diligenté par la ministre susceptible de révéler des pratiques sulfureuses du président. Et il y a surtout le témoignage hier d'une jeune femme agente de joueurs harcelée par Noël Le Graët. En revanche, l'enjeu pour le président, c'est de compter ses troupes, les rassurer. Il n'a probablement pas l'intention de démissionner. Et comme le COMEX n'a pas le pouvoir de le destituer, entre guillemets, il faut pour cela la convocation d'une assemblée fédérale. Eh bien, il est possible que Noël Le Graët, même lâché par ses appuis politiques, soit toujours ce soir le président de la Fédération française.
Puisque vous parlez des appuis politiques, Jean-Michel Rascol, à l'instant, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, est sûr qu'il faut que la FFF ait un président à la hauteur. Donc effectivement, ses appuis politiques ne sont pas très forts aujourd'hui.
Très proche du président
aujourd'hui.
Macron, et il semble que ces derniers jours, le président Macron soit en ligne directe avec le président de la Fédération.
Ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que Noël Le Graët, s'il veut se maintenir, peut se maintenir, et que le politique ne peut pas grand-chose, sauf que Amélie Oudéa-Castéra a émis l'hypothèse d'une reprise de délégation, comme Madame Maracineanu avait émis cette hypothèse dans l'affaire Gayaguet. Et là, ça veut dire clairement au COMEX, des fédérations, ou vous lâchez votre président, ou c'est nous qui reprenons le pouvoir.
Oui, alors c'est un petit peu plus délicat dans le cas d'une fédération qui a beaucoup de subventions, comme celle des sports de glace. Retirer l'agrément, c'est vraiment un tremblement de terre. Dans le cas de la Fédération française de football, c'est plus compliqué car les subventions sont moindres. Certes, l'organisation du football amateur dépend aussi de l'agrément du ministère. Dès qu'un match amateur se joue, eh bien, il y a des policiers municipaux, il y a des stades municipaux qui s'ouvrent. Ça serait compliqué, mais c'est long à mettre en place et donc c'est quand même quelque chose qui demande de la durée.
C'était une menace qu'elle avait brandie.
Voilà, c'est une menace.
Très rapidement, Jean-Michel, est-ce qu'on peut s'étonner que ce soit les propos sur Zidane ce week-end qui aient déclenché tout ça, alors qu'il y avait depuis des mois déjà des accusations lourdes ?
Alors, oui, bien sûr, il y a les propos envers Zidane. Il y a aussi, bien sûr, le témoignage de la jeune femme dont on parlait.
Sonia Souïd.
Voilà, il n'y a pas de classement dans les choses que l'on doit reprocher au président de la Fédération française de football. Un président ne doit pas être au-dessus d'un homme, et c'est pourtant ce que semble penser l'ancien maire de Guingamp, qui en privé confie d'ailleurs qu'il ne comprend pas ce qu'on lui reproche, hormis peut-être ses propos sur Zidane pour lesquels il s'est excusé.
Non mais c'est ce que disait très justement Alba Ventura ce matin. Elle ironisait un peu, elle disait voilà, un mot sur Zidane et il va sortir, alors qu'il y a des propos sur les femmes sexistes ou des comportements qui sont révélés depuis des années et qui n'ont rien changé.
C'est vrai, mais
et c'était assez
différent.
Intéressant.
Zidane, c'est dimanche. Le témoignage identifié de la jeune femme en question, c'est hier.
Certes, mais il y a eu quand même d'autres témoignages, dans une enquête en l'occurrence de SoFoot, je crois, qui mettaient en valeur des comportements ou des propos, disons, sexistes.
C'est certain.
Et le monde du foot n'avait pas dit grand-chose. Il est 12h19. Merci Jean-Michel, vous suivez ça. Ça va peut-être venir avant 14h30.
Il faut l'espérer, mais il faut le croire.
Bon, en tout cas, vous êtes présent avec nous, bien sûr. La pause, à tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
RTL Midi.
Votre vie.
Votre vie, effectivement, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre vie. Et aujourd'hui... Ah, là, c'est un message qui est tombé, c'est ça ? Je croyais que c'était une annonce de la SNCF.
Ah mais non, bon, pas aujourd'hui, non, parce qu'aujourd'hui on parle...
C'est une, le
phubbing.
Mais il n'y a pas un mot français.
Pas pour
bon
ça,
sang.
Mais je vais vous l'expliquer en français.
Le phubbing.
Vous savez pourquoi on dit phubbing ?
Alors d'abord, il faut dire comment ça s'écrit. P-H-U-B-I-N-G.
Terme valise anglais, contraction de phone et de snobbing.
Oui.
Le phubbing, c'est quand on snobe les personnes présentes autour de soi pour regarder constamment son téléphone. C'est un mal assez...
Vous parlez de mes enfants ?
Non, mais pas que de vos enfants. Peut-être.
Vous parlez de mes enfants à Noël.
Peut-être d'un défaut héréditaire. Je ne sais pas, Pascal.
Horrible.
On va en parler avec Laurent Carilla. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychiatrie, addictologue à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif.
Vous venez chez moi.
Bah avec plaisir.
On va faire une consultation
gratuite.
On va faire une consultation.
Gratuite, je suis dans le public.
On parle addictologie. C'est de ça qu'il est question avec le téléphone, une forme d'addiction.
On n'est pas dans l'addiction au sens strict du terme, on est plutôt dans les usages problématiques en fait, de smartphones. Et ça regroupe en fait plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le fubbing, comme vous l'avez dit, c'est, en français c'est télésnober les gens en fait. C'est quelqu'un, on est 3-4, il y en a un qui sort son portable, les autres continuent de discuter, et celui qui a son portable, il s'en fout des autres. Et il y a plein d'autres éléments, comme la nomophobie. La nomophobie, c'est le syndrome de la batterie faible, ou la peur de ne pas avoir de réseau Wi-Fi. Il y a le FOMO. Le FOMO, c'est la peur de rater le moindre événement, la moindre chose, la moindre communication sur son téléphone. Il y a plein de termes comme ça qui sont sortis. Et en fait, tout ça, c'est des symptômes d'usage problématique de smartphone.
C'est générationnel ou pas ?
J'ai envie de dire maintenant, c'est transgénérationnel quand même, parce que tout le monde, l'immense majorité des gens a un smartphone. Donc, tout le monde peut plus ou moins avoir ce type de comportement sans que ça soit pathologique. C'est pathologique pour une minorité, en fait.
Bah, j'ai quand même le sentiment, on a tous vécu des dîners de famille ces derniers temps. Donc, il y a les grands-parents qui ont 80 ans, je ne les vois pas sur leur portable. Il y a les enfants, ou les parents plus exactement, qui ont une petite cinquantaine d'années, et de la même manière... Ils savent se faire détacher. Mais le problème, c'est les jeunes. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Ceux qui ont 20 ans et en dessous, c'est terrible.
Il faut prendre en compte, vous avez raison, mais d'abord les seniors, que j'adore, les seniors sont maintenant friands du smartphone, des échanges sur certains types de réseaux comme WhatsApp, etc. Les cinquantenaires aussi. Mais c'est vrai que les digital natives, toute cette génération qui a la vingtaine, de 0 à 20 ans, quoi.
Ils sont nés avec.
Donc c'est un outil social pour eux. Donc c'est-à-dire c'est un outil social. La seule chose, c'est il faut faire attention à ce que cette consommation, cette hyperconnexion, parce qu'on est tous hyperconnectés, cette hyperconnexion ne devienne pas source de problèmes et de conséquences.
Il n'y a pas de solution. Vous allez vous battre en permanence avec vos enfants.
Non. En régulant les choses, c'est possible. En leur apprenant.
Quand ils ont 25 ans.
Oui, mais si vous laissez vos enfants de 10 ans en roue libre totale avec des écrans, ils seront en roue libre totale tout le temps. Moi, il y a des parents qui me disent « Ouais, moi j'ai ma fille de 17 ans, vous dites le smartphone, il faut réguler l'usage, il ne faut pas que ça soit dans la chambre, etc. » Mais s'ils ont laissé le smartphone dans la chambre, s'ils ont laissé un usage quotidien, non-stop de smartphone, vous pouvez rien faire, comme vous dites, à 25 ans, vous pouvez rien faire, et c'est à eux de réguler leur propre usage.
Et de montrer l'exemple, peut-être, quand on est adulte, parent, pas prendre son téléphone à table,
Bien sûr, il y a plein de modalités, bien évidemment. Il y a ce qu'on appelle le modeling. Le modeling, c'est quoi ? C'est quand on est petit, on veut faire comme les grands. Vous avez tous fait ça, j'ai fait ça moi aussi. Il y en a qui disent « Ah, les grands, ils fument, j'aimerais fumer des clopes ». Donc là, maintenant, c'est plus trop ça. C'est « Ah, il y a les smartphones, les tablettes, etc., j'ai envie d'avoir ça ». Et oui, bien sûr, en tant que parent, il faut montrer le modèle. Il faut être un modèle de consommation de son smartphone et on ne peut plus se passer de ces outils-là qui font partie de notre vie. Donc on est hyper connecté, mais il faut faire attention à la consommation excessive.
Bon, tous vos mots que vous avez employés, aucun n'est français.
La nomophobie. Si, c'est un mot valise de no mobile phobia en fait. C'est en gros, c'est un peu un terme un peu psy pour dire voilà la peur d'être sans ce téléphone. Et je vous en ai pas dit un où vous pouvez gagner au Scrabble pour les vieux, c'est l'atasagoraphobie. L'atasagoraphobie.
Alors
c'est,
si je peux me permettre, il y a trop de lettres pour le Scrabble et je suis pas vieille. Mais
on fait un mot couplet. Il faut trouver avec atasa, agoraphobie et atasa. On rajoute. Non mais l'atasagoraphobie, c'est la flip qu'on a, le coup de parano qu'on a ou le stress qu'on a quand on envoie des messages et on reçoit pas des réponses immédiatement. Et pour certains, ça peut être pathologique, en fait.
Bah, merci beaucoup, Laurent Caria, pour ceux qui voudraient développer tout ça. On conseille votre podcast Addiction avec 2D et un K, Addiction, qui est disponible sur toutes les plateformes. Merci beaucoup.
L'info revient à 12h30 dans une seconde. Vous nous écoutez d'ailleurs peut-être sur un smartphone en ce moment. À tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro.
RTL midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, et merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL midi. Il est pile 12h30.
RTL midi.
Le 12h30.
Céline Landreau et Pascal Pro.
Céline, c'est votre grande édition.
Une réforme indispensable et vitale pour Emmanuel Macron. Au lendemain de sa présentation de la réforme des retraites, l'exécutif assure le service après-vente. La contestation, elle s'organise, front uni de la gauche et des syndicats. Mais pour contester quoi? Qu'est-ce qui vous attend exactement? On y reviendra longuement après le journal avec notre spécialiste retraite Nerissa Emani. Les retraites, c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Êtes-vous prêt, vous, à travailler jusqu'à 64 ans? Dans l'actualité également, cette attaque à l'arme blanche dans le hall de la Gare du Nord à Paris qui a fait 6 blessés dont un grave ce matin. L'assaillant, neutralisé par les forces de l'ordre, est entre la vie et la mort. À suivre également, des panneaux photovoltaïques bientôt obligatoires dans les grands parkings. Le début des soldes. Est-ce que les Français seront au rendez-vous des bonnes affaires malgré l'inflation? Et puis juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT midi. Nous sommes mercredi. Nous parlerons donc cinéma avec Stéphane Boutsock.
Et je vous le répète, on attend vraiment vos témoignages de toutes les professions que vous soyez. Dites-nous ce que vous avez compris, ce que vous avez apprécié et racontez-nous votre prochaine retraite au 3210, bien sûr.
La météo à la fin du journal, ce sera avec vous Peggy Broche, mais déjà un indice sur ce qui nous attend.
La perturbation s'évacue par l'est et on retrouve plus d'éclaircies dans l'ouest.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
Jusqu'à 13h.
RTL midi.
6 blessés, dont un grave. C'est le bilan de l'attaque à l'arme blanche ce matin, Gare du Nord à Paris. L'assaillant a été rapidement neutralisé par les forces de l'ordre. Il est actuellement entre la vie et la mort. Les faits, eux, ont eu lieu un peu avant 7h dans le hall principal de la gare parisienne. Lily s'apprêtait à prendre un train pour Amsterdam. Elle a assisté à toute la scène.
En se retournant, on a vu deux personnes au sol, dont une qui frappait l'autre assez violemment. Donc là, ça a été la panique. Tout le monde a commencé à un peu courir partout et à crier. D'autres personnes ont tenté de maîtriser l'homme, mais il avait l'air très agressif et il s'en prenait à toutes les personnes qui, justement, voulaient le neutraliser. De mon côté, j'ai vu du coup la première victime et je suis allée l'aider. Elle était totalement perdue, sous état de choc et le visage en sang. Je l'ai très vite ramenée à un agent de sécurité pour qu'il soit pris en charge. Il avait une plaie sur le front à cause des coups, je pense. J'ai rejoint mon ami, on a entendu des coups de feu. Donc à ce moment-là, moi, je me suis dit que ça y est, il les maîtriser, ils ont réussi à le neutraliser. On a été très secoués, on ne savait pas où se mettre, on ne se sentait pas en sécurité, ni dehors, ni à l'intérieur. Quand on y repense, on se dit que ça aurait pu être nous, parce qu'on était vraiment à 2 mètres. Mais s'il avait pris notre porte, j'imagine même pas ce qui lui aurait pu arriver, quoi.
Un propos recueilli pour RTL par Maxime Lévy. Gauthier de Lombegard, on vous retrouve à Gare du Nord, donc à Paris pour RTL. Est-ce qu'on sait davantage de choses sur les motivations de cet assaillant?
Eh bien non, pour le moment, les motivations de l'assaillant sont inconnues. Selon nos informations, il s'agit d'un homme originaire d'Afrique du Nord, âgé d'une trentaine d'années. Les enquêteurs de la police judiciaire recoupent actuellement toutes ces données pour déterminer d'abord son identité. Mais tout cela prend du temps car le suspect n'avait pas de papier sur lui. La vidéosurveillance de la gare est également exploitée en ce moment pour reconstituer le violent périple de l'assaillant. Concernant l'arme, il s'agit d'un poinçon, une lame de fabrication artisanale conçue par le suspect lui-même, selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, venu saluer l'action des forces de l'ordre ce matin ici, Gare du Nord. Le parquet national antiterroriste ne s'est pour le moment pas saisi de l'affaire.
Gauthier de Lombegard, Gare du Nord, donc pour RTL, merci.
RTL midi. Ça y est, depuis hier soir, le gouvernement a posé carte sur table et dévoilé donc les contours de sa réforme des retraites.
Des cartes que l'on connaissait déjà pour partie. Le report de l'âge de départ légal à la retraite de 62 à 64 ans, une durée de cotisation de 43 années désormais pour une retraite à taux plein. Et sans surprise, le texte n'a pas séduit, loin de là, à tout le monde. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire.
Bonjour.
Le gouvernement s'attend à un début d'année agité, notamment parce qu'à gauche, partis et syndicats font front uni.
Oui, absolument. Les partis de gauche rejoignent l'appel à manifester des syndicats dès jeudi 19 janvier. En revanche, ils ne suivent pas la marche du 21 de la France insoumise qui, comme d'habitude, est partie seule, bille en tête. Mais l'unité de la NUP s'affichera dans une série de meetings. Et pour la bataille à l'Assemblée, les insoumis promettent 75 000 amendements, 1000 par député, de quoi paralyser les 20 jours de débat. La bataille se jouera aussi dans la rue, c'est la principale inconnue. Si la mobilisation est très forte, la majorité relative risque de tanguer. Que fera par exemple l'allié Modem et le soutien de la droite LR? Tiendra-t-il? La majorité se sait dans l'œil du cyclone, comme le dit un député. Elle se prépare à regarder passer les cortèges et croise les doigts pour que les grèves ne paralysent pas le pays.
Le Rassemblement national, lui aussi, Marie-Bénédicte, s'oppose au texte. Est-ce que Marine Le Pen appelle à manifester ?
Eh bien non. Marine Le Pen s'est toujours tenue à distance de la rue, sans dissuader ses électeurs d'y participer. Elle prend toujours soin de condamner les violences, comme au moment des Gilets jaunes. Mais le RN s'affirme quand même à la tête de l'opposition contre une réforme d'une grande brutalité, dit Marine Le Pen. Et pour se distinguer, elle insiste ce midi sur un point, la durée de vie en bonne santé, qui n'est pas prise en compte par le gouvernement.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL, merci. Et sur le fond de la réforme, au-delà des 64 ans, des 43 années de cotisation, qu'est-ce qui vous attend ? Quid, par exemple, de la retraite minimum qui concerne-t-elle ? On y reviendra longuement après le journal avec Nerissa Emani.
Et alors que toute l'attention était focalisée sur les retraites, c'est presque dans l'indifférence que l'Assemblée a adopté en première lecture le projet de loi dédié aux énergies renouvelables.
Et ça grâce aux voix du Parti Socialiste, alors que les écologistes se sont abstenus. Alors, le texte, on l'a déjà dit, hein, doit permettre d'accélérer l'implantation des éoliennes, par exemple. Mais il vise aussi à développer les panneaux photovoltaïques en rendant leur installation obligatoire, Virginie Garin, sur tous les grands parkings.
Voilà, les parkings de supermarchés, d'usines, d'hôpital, dès qu'ils atteignent 1500 mètres carrés, en gros c'est trois terrains de tennis, eh bien, devront être installées des ombrières sur lesquelles seront posés des panneaux solaires. La moitié de la surface devra être équipée. Alors, ça devient obligatoire, mais il y a pas mal de grandes surfaces qui l'ont déjà fait parce que c'est rentable. Un supermarché a réussi à réduire sa facture d'énergie de 30% en équipant ses parkings. Il produit une partie de ce qu'il consomme. C'est rapide à installer et il y a un potentiel important en France. La filière l'estime à l'équivalent de la production de deux réacteurs nucléaires rien qu'en équipant des parkings. Alors notre pays est en retard sur le solaire. Imaginez en Europe cette année, pour pallier la crise énergétique, la croissance des installations raccordées au réseau a progressé de 50%. Et bien en France, la croissance a été de zéro. On n'a pas pu construire plus que prévu à cause de procédures trop longues. Donc cette loi, elle va les simplifier pour que le nombre de panneaux installés soit multiplié par 2 en 10 ans.
Merci beaucoup Virginie. Adrien Quatennens, lui, est de retour à l'Assemblée nationale. Le député insoumis du Nord, condamné, vous le savez, pour violence conjugale, avait annoncé qu'il serait de retour en début d'année. C'était le cas ce matin. Il participait à la commission des affaires étrangères dont il est membre.
En pleine inflation, les Français vont-ils profiter des soldes ?
Entre un pouvoir d'achat contraint, on le sait, et l'envie de faire de bonnes affaires, il va falloir arbitrer. Et la météo, elle n'aide pas forcément les commerçants à écouler leur stock d'hiver. Dans les rues de Tours, par exemple, Christian Panvert, eh bien, les clients ne se ruent pas sur les doudounes.
Oui, sur les vitrines, on peut lire moins 40%, moins 50% en lettres rouges et le thermomètre dans l'écran vert de la pharmacie affiche, lui, 11 degrés. Alors forcément, ça n'incite pas Bernard et Laure à acheter des vêtements chauds.
J'ai acheté deux belles chemises, donc je prépare le printemps.
On a envie de soleil.
Même constat avec Christopher et Sarah.
Clairement, on n'achète pas trop de vêtements d'hiver.
Ce qu'on a à l'intérieur là du sac, c'est des t-shirts courts, après jupes, voilà, les choses comme ça, ou un peu de maroquinerie, mais c'est vrai que non, pull, etc., on n'en a pas du tout dans la garde-robe en ce moment, non.
Les commerçants s'attendaient à cette demande. Ils ont d'ailleurs agencé leur magasin en conséquence. Geoffroy, vendeur dans la boutique de prêt-à-porter Charles, aborde les soldes sereinement.
On a déjà vendu pas mal grâce au froid qu'on a eu au mois de décembre. Tout ce qui est pièces chaudes, parkas, doudounes. Et puis les gens se sont fait plaisir pour Noël. Il en reste quelques-unes, mais aussi maintenant on fait attention dans nos achats à avoir des pièces un petit peu moins chaudes. C'est-à-dire qu'on a des blousons un petit peu moins épais, des choses comme ceci. Donc ça permet de parer à la hausse des températures.
Des blousons, mais aussi des costumes, des vestes, des survestes, et dès le premier jour, à moins 50%.
Christian Panvert à Tours, donc pour RTL.
RTL Midi. En Ukraine, difficile de savoir ce qui se passe exactement à Soledar, petite ville stratégique de l'est du pays.
Car ce matin, le groupe paramilitaire Wagner a revendiqué la prise de la ville aux Ukrainiens. Démenti immédiat de Kiev. Et ce qui est plus surprenant, Émilie Beaujard, c'est que même à Moscou, on reste prudent.
Et oui, le Kremlin annonce même que des combats sont toujours en cours à Soledar. Alors ce qui est sûr, c'est que les mercenaires de Wagner sont dans la ville. Hier, Evgeny Prigojine, leur chef, est apparu entouré de ses hommes dans les immenses galeries de la mine de sel de Soledar. C'est une des plus grandes mines de sel d'Europe. Les galeries font plusieurs dizaines de kilomètres sous la ville de Soledar. C'est donc une prise stratégique, non seulement militairement, car cela permet de camoufler hommes et matériel sous terre, mais la mine est aussi une opportunité financière pour la milice de Wagner, puisqu'elle regorge de sel, d'argile et de craie. Si les Russes arrivent à prendre Soledar, c'est aussi pour pouvoir se repositionner au nord de Bakhmout, à seulement 15 kilomètres. Cela couperait aussi les lignes ukrainiennes de communication et de ravitaillement.
Émilie Beaujard pour RTL, merci beaucoup.
La Fédération française de football mérite un président à la hauteur. La charge est lourde contre Noël Le Graët et elle vient du gouvernement.
Oui, c'est le porte-parole de l'exécutif Olivier Véran qui a tenu ses propos à l'issue du Conseil des ministres ce matin. Et cela alors que Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, est face à son comité exécutif réuni en urgence pour l'entendre sur les dossiers brûlants du moment. À la fois ses propos maladroits sur Zinedine Zidane, mais aussi les accusations de management discutables et de harcèlement sexuel qui visent aujourd'hui le patron du foot français. Le COMEX est toujours en cours. On y reviendra évidemment si nous avons davantage d'informations avant la fin de cette édition. La météo, on vous retrouve comme promis, Peggy Broche, avec davantage d'éclaircies pour cet après-midi.
Oui, sur l'ouest du pays, notamment entre la façade atlantique, les régions centrales en allant vers l'Île-de-France et les frontières du Nord. C'est vrai que ça se dégage un peu plus, on a un ciel variable. Allez, quelques gouttes ici ou là, mais vraiment pas grand-chose. En revanche, sur les bords de Manche, on va retrouver les averses cet après-midi qui vont se réactiver. Et surtout, beaucoup de vent, ça va bien souffler. Et attention, parce qu'entre ce soir et cette nuit, le début de nuit, on risque d'avoir de fortes rafales de vent, notamment sur les côtes du Pas-de-Calais et du Nord, avec des risques de phénomènes tourbillonnaires jusqu'à 110 km/h. Donc prudence. On a toujours cette perturbation donc du sud-ouest aux frontières de l'Est qui s'évacue par l'Est, qui donne de la neige en montagne, sur les Pyrénées des 1500 mètres, pareil sur les Alpes, 1200 mètres sur le Jura, et puis dans l'extrême sud-est, là on a un temps plus sec avec un peu plus de luminosité entre les Alpes-Maritimes et la Corse, tout ça sous des températures encore douces, 8 à Grenoble jusqu'à 18 à Perpignan cet après-midi, 15 à Biarritz, 13 à Nantes, 12 à Paris et 10 à Ambérieu.
Merci Peggy.
Tout savoir sur les retraites avec Nerissa et Mani. Paraît-il que hier soir, le site de l'assurance vieillesse a été pris d'assaut par les internautes.
Vous êtes allé, tout le monde veut savoir, tout le monde veut faire sa simulation.
Exactement, c'est exactement
ça. Vous avez
ça.
Regardé, vous, Pascal ?
J'ai pas regardé, mais je l'ai lu ce matin où je l'ai entendu. Il est 12h42, à tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030.
Elisabeth Borne qui présentait, vous le savez parce qu'on vous l'a dit beaucoup hier, la réforme des retraites, l'âge de départ légal repoussé à 64 ans, la durée de cotisation portée à 43 annuités, ça c'était très attendu. Mais Nerissa Emani, notre spécialiste retraite ici à RTL, est venue nous parler du reste. Bonjour Nerissa.
Bonjour.
Alors qu'est-ce qu'on a découvert, qu'est-ce qu'on a appris hier avec les annonces d'Elisabeth Borne ?
Ben notamment une confirmation qui était très attendue, l'augmentation de la pension de retraite minimale à 1200 euros brut pour les futurs retraités, ceux qui ont travaillé plus, mais aussi pour 2 millions de personnes actuellement à la retraite.
Donc ça, c'est très très important. Ça veut dire que ceux qui nous écoutent en ce moment, qui ont tout leur trimestre et qui ont une retraite à 1000 euros, ceux-là vont voir leur retraite portée à 1200 euros.
Brut. Et exactement, oui. Pour une et carrière exactement, pour une carrière complète. Donc ceux oui. qui nous écoutent et qui ont 168 trimestres cotisés, ils auront donc une pension qui va augmenter à 1200 euros brut, parce qu'il faut retirer quelques cotisations, dont la CSG, c'est plafonné à 9%. Dans le pire des cas, en net, ça vous fait environ 1091 euros dans la poche. En revanche, si quelqu'un n'a pas cotisé toute sa vie, qui n'a pas assez de trimestres, par exemple, vous gagnez le SMIC, mais vous étiez à mi-temps, vous aviez une pension très basse, et bien là aussi, il y aura un coup de pouce et ce sera calculé au prorata des années travaillées.
Et ça, c'est à partir de quand ce gain de pouvoir d'achat, Nerissa ?
Eh bien, pour les nouveaux retraités, à partir de septembre, ça c'est sûr, à la mise en place de la réforme. En revanche, pour les actuels retraités, ceux qui nous écoutent aussi, c'est un peu plus flou. Le gouvernement laisse entendre qu'il y a encore des arbitrages et que ça pourrait être mis en place plutôt au début de l'année prochaine. Donc
ah
pas
oui,
tout
c'est
de suite.
Ça, il y a un petit flou.
Il y aura un décalage.
Voilà. Depuis hier, je vois qu'il y a un petit flou, parce qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui disent mais moi je suis à 900 000 euros, qu'est-ce qui se passe pour moi ? Bon, autre confirmation, les carrières longues qui continuent à être prises en compte avec du mieux pour les femmes.
Oui, les femmes au foyer ou celles, par exemple, qui se sont mises en arrêt après un congé parental pour élever leur enfant et qui ont perçu en même temps une allocation de la CAF, eh bien, elles auront droit à 4 trimestres pris en compte pour partir un peu plus tôt à la retraite. Attention, donc, si vous êtes arrêté deux ans après avoir eu votre enfant, ce sera plafonné quand même à 4 trimestres. Mais ça équilibre un peu les choses, hein, parce que le congé parental, c'est une situation qui desservait les femmes, qui créait des carrières hachées et qui entraînait des pensions moins élevées que celle des hommes. Hier, Nérissa, vous étiez déjà dans ce studio et on parlait de la prise en compte de la pénibilité, des critères de pénibilité. Est-ce qu'on en sait plus sur ce sujet ?
Eh ben, on sait que le compte pénibilité, le compte professionnel, on en avait parlé hier, il sera un peu modifié, mais les critères, ils restent les mêmes. Les températures extrêmes, travail répétitif, travail de nuit, il n'y a pas d'ajout. En revanche, les barèmes augmentent un peu pour obtenir plus de points et partir plus tôt. Notamment...
C'est-à-dire, par exemple, pardonnez-moi de vous couper, qu'une femme de ménage ou un carreleur, qui a priori sont des métiers difficiles, avec des postures difficiles, cela n'est pas pris en compte comme c'était pris en compte, par exemple, il y a une dizaine d'années.
Non, en tout cas, dans le compte pénibilité, non. En revanche, dans ces branches-là, où il y a des métiers qui sont difficiles et ça entraîne des postures pénibles, exactement, etc., là, les branches devront identifier les métiers qui sont concernés et ces métiers-là pourront bénéficier d'une aide à la reconversion, d'une aide à la formation et à la prévention. Alors, c'est très, très flou. Pour l'instant, il y a un fonds d'1 milliard d'euros. Ça, c'est, on sait le montant, 1 milliard d'euros.
Mais j'imagine quand même la difficulté pour la femme de ménage ou le carreleur qui a écouté hier Elisabeth Borne et qui ne sait pas ce matin précisément, j'allais dire, à quelle sauce il sera...
manger. En revanche, ce qui reste aussi, c'est que si vous êtes reconnu en incapacité totale de travail à hauteur de 20%, vous pourrez partir plus tôt, à 62 ans.
Mais incapacité, ça c'est clair, mais les gens qui nous appellent au 32-10, souvent ils disent, on les a eu encore hier, je suis fatigué, je suis usé même, c'est ce qu'ils disent.
Ça va peut-être changer, il y aura des discussions à l'Assemblée.
Et voilà, c'est ça, on rappelle que tout n'est pas forcément figé et que les parlementaires se saisiront ensuite de ce texte. Merci beaucoup Nérissa et Mani, on n'a pas fini d'en parler de cette réforme des retraites, ça c'est une certitude. Dans un instant...
La culture. D'ailleurs, la Comédie française, le régime des retraites ne change pas et à l'Opéra de Paris non plus.
Non mais là, on va parler cinéma.
Exactement, avec Stéphane Boutsock.
À tout de suite.
À tout de suite.
RTL Midi, Céline Landreau et Pascal Pro. RTL. Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à tête tous les jours dans RTL Midi. Aujourd'hui, nous sommes donc pour parler cinéma avec celui que vous connaissez, qui vient nous voir chaque mercredi matin. Également, je vous entends dans la matinale régulièrement. Stéphane Boutsock, bonjour.
Ça me fait plaisir. Bonjour Pascal, bonjour Céline, bonjour tout le monde.
Bonjour Stéphane. Avant de parler des sorties du jour, un petit point box-office avec le carton Avatar qui continue.
Je viens d'avoir les tout derniers chiffres, donc ceux à hier soir. On en est à 10 326 368 entrées exactement en France. Ça continue. Ça marche moins que pendant les fêtes, mais ça continue, ce qui veut dire que le film fera sans doute plus de 12 millions d'entrées en France, donc pas si loin que ça finalement du premier. Ça valide toute la stratégie de Disney et de Cameron, donc maintenant c'est sûr, le 3 on sait, il est fini, il va sortir, le 4 qui est en partie tourné va être tourné entièrement, et le 5 évidemment sera mis en chantier. On a un tout petit peu d'infos déjà sur le 3. Après l'eau, on sait que ça va concerner plutôt le feu et qu'on va découvrir des personnages toujours sur Pandora. Sur Pandora, c'est cette communauté des navis, mais plutôt le côté obscur des navis, un peu les méchants. Voilà.
Ça montre aussi que quand un film est attractif, les gens vont dans les salles de cinéma.
Ah ben, ça fait partie de ces films qui ont ramené, qui continuent de ramener les gens en salle. Quand j'avais rencontré James Cameron juste avant Noël pour la sortie, je lui avais justement parlé du fait que quand même ça va être l'œuvre d'une vie pratiquement. Il aura passé plus de 20 ans à se consacrer à cette affaire-là. Écoutez ce qu'il nous en disait.
J'ai 68 ans et ça va me prendre encore une décennie. Donc, j'en aurai 78 quand j'aurai terminé. Et que se passe-t-il si j'ai un pépin ? J'ai demandé à Disney d'investir des milliards de dollars dans cette saga et je dois avoir un plan de succession. On n'arrive pas à faire un film comme Avatar en un jour et je peux vous dire qu'il n'y a pas un autre réalisateur aujourd'hui qui puisse le faire. J'ai besoin de trouver quelqu'un qui m'observe et prenne le relais au cas où. Je ne veux pas m'inquiéter du fait que tout puisse s'effondrer sans moi. Idéalement, je veux faire le 5e film et je vais vous dire pourquoi. Le scénario du 3 est meilleur que celui du 2, celui du 4, c'est une putain d'histoire. Quant au 5, il se termine tout en beauté, donc je veux le mettre en scène, mais tout en étant très motivé, je suis aussi réaliste.
James Cameron, donc, notez que Avatar 3, on sait déjà, sortira en décembre 2024, mais je rejoins ce que vous disiez, Pascal, il y a d'autres films qui fonctionnent très bien, qui sont totalement différents. Je prends l'exemple de Tirailleurs, qui est sorti la semaine dernière, film RTL avec Omar Sy, plus de 450 000 entrées en une semaine, c'est aussi la preuve en effet, quand il y a des histoires, quand il y a du cinéma, quand il y a des bons comédiens, bah, les gens y reviennent.
Les films du jour, maintenant, Stéphane, oui. Vous vouliez nous parler des... Je ne parle pas de vous, mais des Cadors.
Bien sûr. Les Cadors, film de Julien Guetta. Je note. Celle-là, je la note, Céline. avec Jean-Paul Rouve et Grégoire Ludic qui jouent le rôle de deux frangins absolument différents, l'un totalement extraverti, l'autre allez, 40 ans en crise personnelle et de couple. Ils vont être obligés de se retrouver parce que le papa meurt et évidemment toutes leurs différences, leurs rancœurs, leurs non-dits vont refaire surface. C'est un très joli film. Jean-Paul Rouve et Grégoire Ludic étaient nos invités dans RTL Soir, c'était lundi avec Julien Cellier. On leur a demandé évidemment comment on crée cette complicité, comment on joue deux frangins. Mais figurez-vous qu'ils ont pas mal de points communs.
Oui, on a l'impression qu'on a fait la même école de professionnels de la vie, quoi.
Ouais, mais je crois qu'on est conscient d'avoir fait. Enfin, moi, en tout cas, je suis ravi d'autant d'être dans l'absurde, dans les sketchs, dans la comédie, que de pouvoir explorer de nouveaux horizons, de faire de nouvelles choses. Et j'ai l'impression que Jean-Paul, c'est vrai que quand on s'est vu, on s'est entendu, on s'est très vite compris. Il y a eu ce petit truc un peu fluide, quoi, qui s'est passé.
Une petite connerie dans l'œil.
Ouais.
Et puis
c'est assez agréable. Ouais.
Jean-Paul Rouve et Grégoire Ludic. Grégoire Ludic, c'est un des deux garçons du Palma Show, duo qui cartonne à la télé et sur Internet, réunis donc dans Les Cadors de Julien Guetta, qui sort aujourd'hui au cinéma. Je vous recommande aussi, tiens, si vous avez le temps, d'aller prendre le soleil en Grèce. Le film s'appelle Les Cyclades, film de Marc Fitoussi avec Laure Calamy et Olivia Cotte. Là aussi, c'est l'histoire d'une belle amitié.
Avec deux, trois femmes, donc.
Avec deux, trois femmes.
Non, l'amitié de deux, trois femmes.
Deux, trois femmes, oui, c'est ça.
Je ne serais pas permis de parler de ces actrices en disant oui, deux, trois femmes.
Deux, trois femmes.
Non, quand même pas.
Il n'y a pas de retraite chez les comédiennes.
Ah non, bah certaines sont là pour très 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 longtemps. Alors, vous savez, c'est un métier difficile et parfois injuste. Ça peut s'arrêter aussi à 23 ans. Hein.
Parfois.
Mais oui.
Merci Stéphane. On attend vos témoignages dans quelques minutes et jusqu'à 14h30. De quelque profession que vous soyez, appelez-nous pour nous dire vos observations, vos inquiétudes, pourquoi pas, vos analyses, vos commentaires. À tout de suite. RTL.